La tâche qui m'incombe est rude. Je précise que je suis députée de Montpellier, ce qui vient d'être dit, mais que je suis membre du Parti socialiste, donc à gauche. Ce qui, après l'intervention précédente, n'est pas forcément facile à vivre. Ou au contraire, pourrait l'être. Donc tout d'abord, je tiens à vous remercier et à remercier le Collège de France de son invitation et d'avoir surtout choisi ce thème « Science et démocratie » parce que c'est, à mon sens, une allègre interpellation. En effet, peut-on avoir tendance à penser, nous, scientifiques, et je m'inscris ici comme scientifique, peut-on avoir tendance à penser, à vouloir penser l'articulation entre ces deux mots comme l'évidence d'avenir intimement mêlé entre science et politique. Peut-être pensons-nous trop vite que ce lien est bijectif par nature et qu'effectivement, entre science et démocratie, la nature a fait son œuvre au fil des millénaires et qu'avec le siècle des Lumières, nous avons atteint, sinon un summum, au moins un démarrage, une belle articulation entre science et démocratie. Parce qu'effectivement, sans démocratie, ou au moins sans aspiration à la démocratie, la science ne peut éclore, car son objet même est de rendre lisible le réel, ce qui, pour des régimes non démocratiques, est par nature dangereux. Sans science, et donc sans liberté de connaître et de dire, il ne peut y avoir de démocratie pérenne, car la science, par nature, s'échange et se transmet, et donc cultive et libère. Science, échange, transmission, culture, liberté, libération. Sans science, sans éducation, sans transmission, sans culture, la politique devient totalitaire, car c'est le plus fort de l'instant qui gagne. La science pose aussi la question du temps. Ça a été dit tout à l'heure. La science construit de la pensée en continu, ce qui est compliqué dans un monde où une pensée peut, voire doit, s'exprimer en 140 signes sur Twitter, en 2 minutes de prise de parole aux questions au gouvernement ou dans les interviews que nous accordent les médias, voire moins dans les reportages de 3 minutes, images et commentaires compris, auxquels nous sommes contraints, nous, les politiques. Parce qu'on fait des interviews qui durent 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure, voire une heure, et on se retrouve à l'écran sur 2 minutes, voire 3. Et encore avec des morceaux de phrases. Ça m'est arrivé en campagne électorale, où j'ai retrouvé dans la presse une phrase constituée de 3 morceaux de phrases différentes, provenues de phrases différentes. J'avais recomposé complètement la phrase, et quand j'ai interpellé le journaliste, il m'a répondu « vous me l'avez dit, vous l'avez même écrit ». Voilà, le monde est ainsi fait. Et c'est fort dommage, et on ne règle pas, on ne construit pas une politique, on ne construit pas une société dans les prétoires. Je voulais quand même le souligner. Donc c'est aussi une des contraintes du politique, d'avoir à gérer cette temporalité incroyable de l'instant dans lequel nous vivons aujourd'hui. Nous sommes dans un monde dont la mémoire immédiate est telle qu'il interdit la controverse par la confrontation des arguments, ce qui pourtant et de tout temps et jusqu'ici avait permis la construction de la pensée. Le monde change, les temps changent. C'est toujours le même mot, les temps. Un mot à la place d'un autre, une hésitation, l'énoncé d'une incertitude, l'hypothèse qu'il faudrait sans doute peut-être chercher un peu encore. Tout cela autorise de fait l'interprétation arbitraire des totalitarismes du refus, ceux qui se fondent sur ce que l'on sait déjà, du passé au présent, mais ni que l'avenir puisse se construire d'aujourd'hui à demain et plus tard, voire grâce à des incertitudes. Nous sommes en France entrés dans un monde qui nie l'incertitude. Nous construisons nos phrases, nos propos, nos interpellations, nos constructions mentales reportées par les médias, quelles qu'elles soient, radio, télé, internet, journaux, papier, nous sommes dans l'instantané permanent. Et pourtant, au fil des jours, au fil des mois, on nous redit, il y a 1 an, il y a 3 ans, vous avez dit cela. Et donc cette articulation entre les temporalités du politique, je pense et je crains, que ce soit les mêmes que les interpellations des temporalités des scientifiques. Parce que c'est donc un thème très politique que ce temps. Le temps du politique est le temps du présent pour l'avenir. L'air du temps en est le nutriment et l'obligation d'agir en est le moteur. Mais quel véhicule conduisons-nous? Je crois avoir exprimé l'essentiel dans mon titre autour des interdits. médiatique, politique, scientifique. Nous vivons une époque étrange où l'interdit domine, une époque étrange pour qui adopte une attitude un peu rationnelle. Ce qui est le propre du scientifique, coincé entre médias, sans doute désormais le premier pouvoir, et le travail politique. Le travail politique. Ce n'est pas que du bruit, j'y reviendrai. Nous avons connu dans les années 86-90 le politiquement correct, que j'ai toujours considéré comme un esthétisme intellectuel destiné à une cible médiatique qui était la classe moyenne, mais dont j'observe que le pendant était au même moment le déploiement du grunge, du sale, dans des classes sociales très favorisées. Les couvertures de certains magazines féminins de l'époque en témoignaient, tout comme les t-shirts et jeans éculés de Bruce Willis. On s'en souvient. À cette époque qui se croyait flamboyante, l'habileté langagière du politiquement correct était en fait que le prélude à une dégradation du concept même de politique au sens de politique publique. Sont arrivées alors la confusion entre politique partisane et politique politicienne et politique publique. Serions-nous face à une désagrégation du langage entre parole publique et parole politique, conduisant inévitablement à la mise en question de notions aussi importantes que la conviction, la confiance, l'imagination, l'engagement, le plaidoyer, l'argumentation, la connaissance. Au final, la notion même de preuve est mise en question. Et comme les mots font sens, il paraît normal aujourd'hui de ne penser aux hommes et aux femmes politiques qu'en termes d'affrontement, de positionnement de pouvoir, de posture médiatique, bref, de combat de coq. Et de coq obéissant pour ceux qui se plient à la dictature du temps immédiat, celui de l'instant, celui des médias, celui du journal télévisé, que d'ailleurs j'observe, plus grand monde ne regarde. À propos de coq, nous avons vécu la semaine dernière à l'Assemblée nationale un moment surréaliste avec un député UMP qui s'est mis à imiter le bruit d'une poule, coq, 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 codec, pendant l'intervention d'une députée, comme quoi les inconscients finissent toujours par s'exprimer. Et je pense qu'on est dans cette ère du temps, entre conscience et inconscience, et qui fait que la France est quand même malgré tout un pays intéressant. En démocratie, le goût du combat, le goût du politique, ne saurait être motivé que par l'espoir du mieux, et donc par le goût du bonheur. L'aurions-nous oublié ? La France deviendrait-elle un pays qui renonce à vouloir être heureux ? Froh wie Gott in Frankreich, disent les Allemands. C'est une expression banale. Ils ne se souviennent même plus qu'à Frankreich dans l'expression. Heureux comme Dieu en France. Avons-nous oublié ? Est-ce la fin ? C'est en tout cas un fait. En décembre 2012, nous avons appris que le moral des Français était au plus bas, 174e au monde sur 176, après les Irakiens et les Nigérians. Je ne sais pas trop où étaient les Syriens, mais pas bien loin, devant nous. Nous serions donc le peuple le plus démoralisé, le plus pessimiste de la Terre, alors que nous sommes quand même encore à la 5e puissance mondiale, ou en tout cas entre 5 et 10. Je voulais rappeler ces éléments. Cette étude date de décembre, elle est sortie sur les médias au mois de juin. Il y a eu 6 mois de latence. Angoisse existentielle, faillite du pouvoir politique, défaillance des médias, ritournelle identitaire, rhétorique démocratique. Ce sont des sujets compliqués et difficiles. Et étant là ce matin, en ayant accepté l'invitation du Collège de France, et j'en suis très honorée, je tiens à le dire, et je les en remercie, je savais que c'était difficile et que ce serait compliqué, et que je m'exposais, y compris, je n'avais pas vos chiffres, monsieur, sur l'immense scepticisme de la gauche et du formidable engouement pour les gaz de schiste de la droite, dont je rappelle quand même que c'est eux qui ont inventé la loi de 2011, qui vient d'être confirmée par le Conseil d'État, qui est également présidée par un monsieur ancien du UMP, monsieur Debray. Voilà, ça s'appelle la contradiction française, permanente et constante, à 1 an, 2 ans, le temps, la question du temps en politique, la question du temps est fondamentale, est essentielle et elle nécessite de la pensée et de l'honneur. C'est difficile. Alors, le temps du politique, c'est aussi le temps long, et pas forcément le long terme. C'est ça qui est compliqué à comprendre. Ça n'est pas seulement le temps de l'immédiat, de l'élection qui va venir, ou le temps du moyen terme, de 2 élections qui vont venir. Mais on doit penser à l'instant, ce dont on sait que ça aura des impacts pas tout de suite, mais dans 10 ou dans 20 ans. Et d'ailleurs, nous sommes en train d'introduire de nouveaux concepts, j'y reviendrai tout à l'heure, autour de lois à durée variable, à durée finie. Et c'est plutôt une bonne nouvelle. Et la science dans tout ça ? Quelle est sa place ? Je le disais en préambule, la science et la démocratie sont inséparables. Or, alors même qu'une partie importante des polémiques modernes sont en fait des politiques scientifiques depuis bientôt 20 ans, aujourd'hui gaz de schiste ou radiofréquence, hier OGM, huile de palme et acide gras trans, la question se pose de la force de l'expertise scientifique, de sa place et de sa nature. Pire, les scientifiques désertent les plateaux médiatiques, sauf lorsqu'ils abondent dans le sens de l'air du temps. Fort heureusement, ils sont peu dans ce cas. Parce que la science est quelque chose qui est contrainte par elle-même, son évaluation interne, la rhétorique, la discussion, l'affrontement, et donc le doute. Et ceux qui affirment surtout des contre-vérités, ou surtout quand c'est dans l'air du temps, c'est qu'il y a un souci. Mais c'est une vraie question. Et c'est une question qui est sémantique, mais aussi ontologique. Sur les radiofréquences, l'agence qui vient de prononcer un arrêt récemment, une information, vient de conclure assez sagement, ouf, et avec un raisonnement finalement assez sympathique, il n'y a pas de fait avéré. Comme il n'y a pas de fait avéré, est-ce qu'on peut s'autoriser à interdire par précaution ? Je considère à titre personnel que, avec toutes les douceurs et formulations élégantes de l'agence, c'est plutôt une bonne nouvelle d'avoir dit que les faits, qui ne sont pas encore têtus, bien que les scientifiques sachent qu'ils sont têtus, mais dans l'imaginaire populaire médiatique français, les faits ne sont pas têtus. Les faits ont tendance à ne pas exister, d'ailleurs. Ou en tout cas, à exister quand ce sont des exemples terribles et qui abondent dans le sens de la thèse, je n'ose dire de la théorie, en développée. Alors, il est vrai que les vrais scientifiques sont affublés souvent d'un tic de langage étrange qui consiste toujours à répondre par un « oui pour l'instant ». En l'état actuel des connaissances, c'est la même chose. Et sur les plateaux médiatiques, quand vous avez fait face à un journaliste un peu incisif et que vous avez une demi-seconde pour répondre, éventuellement pour le temps de faire 3 phrases, les scientifiques ne sont pas habitués à ça. On est habitué à l'argumentation. Et quand on est face à quelqu'un qui vous interpelle et qui vous dit « vous en êtes sûr ?», la réponse toujours est « oui, pour l'instant ». Pour l'instant, parce qu'il y aura d'autres recherches futures, parce que tout sujet se creuse et s'abonde. Et ça, cette incertitude langagière, elle ouvre l'espace infini du principe de précaution. Puisqu'on n'est pas sûr, ne faisons pas. Et là, j'interpelle les scientifiques en leur disant « chers collègues, mesdames, messieurs, il faudrait apprendre à parler ». Il a dit oui, tout simplement. Même si c'est en l'état actuel des connaissances, la suite de la phrase. Parce que la controverse, à ce moment-là, elle sera sur la place publique et avec plusieurs argumenteurs. Parce que vous ouvrirez l'espace de la démocratie. Parce que vous créerez l'interrogation. Parce que vous serez interpellé. Vous avez dit oui, mais ce n'est pas vraiment vrai. Et là, on aura un débat public. Si on termine le débat en disant oui pour l'instant, oui, il faudrait encore expérimenter, oui, il faudrait encore approfondir, c'est fini, retournez dans votre laboratoire, et puis nous, on continue, et on, par principe de précaution, en supprimant le risque, nous arrêtons tout. Alors, il y a bien sûr une demande latente et récurrente de toujours vouloir aller plus loin pour un scientifique. Ce qui veut dire on n'est pas allé assez loin, et ce qu'on ne sait pas encore vraiment, ce profond ressort intellectuel, scientifique, du scientifique, ça n'est pas une coquetterie, c'est un ressort de travail. Dans une société compliquée comme la nôtre, cette incertitude, elle est propice à l'immobilisme. Le préambule de la Constitution, qui a été installé sous l'autorité de M. Chirac, et Mme Constantin-Morizet à l'époque en étant sa conseillère personnelle, le principe de précaution. On a vu autour des gaz de schiste, la décision du Conseil constitutionnel, arriver à un concept intéressant qui est le principe de prévention qui vient de sortir, juridiquement, plus compatible sans doute que le principe de précaution. Mais ce que prévenir ne guérit pas, mais en tout cas, c'est à mon sens un progrès par rapport à précaution. Parce que prévenir, c'est pas dire qu'on va commencer à dire ce qu'on ne sait pas, et donc faire des progrès. C'est plutôt moins pire, dirais-je. C'est une précaution langagière que prennent les juristes. Le droit n'est pas une science, mais au bout de quelques années, il le devient. Parce qu'il construit le droit. La science est ainsi tant mise en question que depuis 20 ans, certaines questions sont des interdits. Je les ai évoquées tout à l'heure. Alors que c'est la nature même de la science que de se situer entre incertitude, conviction et démonstration. Et ça, la communauté scientifique oublie de le rappeler et ne se projette plus dans le champ médiatique pour le dire. Entre incertitude, conviction et imagination. L'imagination, l'imprévisible imagination. Le concept même de connaissance est ainsi interpellé. Vous êtes interpellés, vous, les scientifiques, ou plutôt la manière dont le monde scientifique formule ses connaissances et les donne à voir. Cette manière d'être est interpellée. Pire même, le concept même d'évaluation par les fers, du pire tout pire, est interrogé, puisque désormais, la publication scientifique devient un marché comme un autre, un marché à deux jambes, l'un pour acquérir la notoriété personnelle, l'autre pour obtenir des fonds pour travailler. Dans cette équation complexe, nous nous trouvons aujourd'hui, et c'est pas forcément simple pour les scientifiques. Le regard sur la connaissance se fragmente. C'est terrible à dire, il n'y a plus d'admiration. Un peu encore pour les prix Nobel, peut-être. Car la confiance qui était la règle a disparu, car la défiance est reine. Politique et scientifique, vivons ensemble sous le règne de la défiance. Tout à l'heure, vous l'avez évoqué, monsieur, sur votre transparent, j'ai noté que vous avez marqué, c'était intéressant, le mot scientifique indépendant. Je ne sais plus ce que c'est qu'un scientifique indépendant. Quand vous passez à la télévision, un scientifique, un physicien du CNRS, un agronome de l'INRA, un médecin d'université, un chimiste, j'ose encore utiliser le mot chimie, un chimiste du CEA, non, on va dire un chimiste universitaire. Il n'est même plus indépendant, parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui viendra lui dire en face, mais de toute façon, votre laboratoire est financé par les grands groupes. Donc, vous n'êtes pas indépendant. Alors, on ne sait plus qui sont les scientifiques indépendants, parce qu'ils sont payés par qui. On ne se pose plus cette question-là. Scientifique indépendant devient une rhétorique morale. Ça n'est plus une approche ni politique, ni scientifique. On ne sait pas indépendant de quoi. Or, l'indépendance, elle se pose par rapport à un pouvoir et par rapport à une situation.
Voilà, je sens que je vous blesse un peu, je vous surprends un peu, mais
c'est un peu mon rôle, hein, le rôle du politique de surprendre. Sinon, comme disait, je ne souhaite pas vivre dans un pays où, comme le général Pichegru disait, je suis leur chef, donc je les suis. Voilà. C'est un petit, à mon avis, on vit un peu dans un pays qui a tendance à vivre comme ça aujourd'hui. Non. Voilà. Réveillons-nous. Réveillons-nous. La connaissance est une compétition. Scientifique. Ça l'a toujours été. La gloire d'un pays s'est toujours mesurée à ses victoires militaires, à ses cerveaux et à ses artistes, mais aussi à la qualité du public capable de les apprécier. Et ça, c'est vieux comme l'histoire du monde. Les artistes, leurs œuvres musicales, picturales, étaient achetées par les puissants. Ils ne vivaient pas de la vente au fil de l'eau, dans les caniveaux, aux pauvres qui étaient à l'époque le monde. Bien, reprenons, nous, scientifiques, le goût du pouvoir. Reprenons le goût de l'envie d'exercer le pouvoir, et donc le risque du pouvoir. Puisqu'aujourd'hui, la connaissance n'est plus une ambition, c'est une inquiétude. Le risque de savoir se mesure désormais à l'aune du risque de souffrance possible. Tout comme les scientifiques qui doivent être indépendants, ce que je n'arrive pas bien à comprendre, enfin, mentalement indépendant, indépendant, comment dire, dans la tête, dans la force de la science, dans la conviction du scientifique, mais indépendant, il faut bien qu'ils soient payés quand même, ils sont bien payés par quelqu'un. Eh oui. Donc, ce risque de souffrance possible, cette notion de possible, ce qui peut arriver, devient insupportable. Le risque n'est plus supporté. Dans nos sociétés inquiètes où tout est sujet à souffrance, car nous entretenons un mythe de société riche, celui que nous avons les moyens de nous protéger de tout. Mais nous entretenons une grande perversion, l'idée que nous pourrions ne pas souffrir. Principe de précaution, principe de prévention, l'idée que nous pourrions ne pas souffrir
m'étonne toujours un peu parce que vivre est un danger permanent. Quant à naître, pour la mère, c'est toujours compliqué. Et un vrai risque. Et la société protège. Mais elle n'empêche pas, elle n'interdit pas. Elle construit les outils de la protection. Elle ne pose pas le passé comme étant indépassable. La démocratie, formidable creuset de savoir, d'éducation, d'échange, la démocratie génère son propre cercueil. L'avenir n'existe que s'il est déjà écrit. Ce n'est pas une affirmation, c'est juste une question. Je ne pense pas ça. Je dis que je vis dans un monde qui aujourd'hui me renvoie ça. L'idée même de risque. Nous ne sommes plus capables de supporter le risque. Le risque est-il un mythe ? Nous avons trouvé la parade en faisant naître le principe de prévention il y a quelques jours, c'est bien, par la mise en place de dispositifs de mesure, de vérification, de surveillance, de validation et par l'émergence de concepts comme tels, l'évaluation et le calendrier. Ça, c'est bien. Ça nous évite d'être trop ligotés. On se donne des calendriers. On se dit, la loi, on va la faire pour 5 ans et on verra dans 5 ans. On la réévaluera. C'était le travail qui a été fait par le Conseil de bioéthique, par exemple. On réévalue et on réarticule. Et cette idée de donner à la loi une temporalité est importante parce qu'elle permet justement à la science derrière de s'exprimer. La science et à la société de s'exprimer et de contribuer à son évolution. Ça, c'est important. Alors, principe de précaution, il est à l'œuvre. Je ne pense pas qu'on revienne en arrière, même si ceux qui l'ont mis au pouvoir il y a 10 ans sont aussi parmi ceux qui aujourd'hui veulent le retirer de la Constitution. Nous avons une centaine de députés, UMP, qui œuvrent dans ce sens actuellement. C'est difficile. Mais le principe de précaution, il a libéré le respect de la science, il a transformé le respect de la science en exigence à son égard. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui a été un changement de sens, qui a été profond et difficile. L'habituelle injonction « faites-moi la preuve que ce que vous faites est utile pour la société, l'économie, le pouvoir, pour » est devenue un « faites-moi la preuve que ce que vous faites ne m'inquiète pas ». L'interdit de recherche sur les OGM, concrétisé par son absence totale dans le 6e PCRDT au niveau européen, et une vague allusion quasi cryptée dans le 7e, a signé la mort de l'industrie semencière française, pourtant une des plus élégantes du monde, sauf à ce qu'ils aillent expérimenter ailleurs dans le monde ce qu'ils font, tant mieux, et ce qui maintient des emplois en France. Aucune institution française de recherche, université ou organisme, n'a monté de vrais programmes de démonstration de l'innocuité ou de la dangerosité des 10 OGM. Sur les OGM, on ne sait rien ou si peu. Par contre, chacun d'entre nous sera demandeur de thérapie génique s'il en a besoin. Par contre, chacun de nous boit bières et vins sans sourciller, alors même que bien des souches de fermentation qui les ont créées sont en fait des OGM, certes pas des OGM supérieurs, mais des OGM quand même. Mais je sais bien que santé et alimentation ne touchent pas aux équilibres mondiaux dits naturels. Ça, c'est compliqué. Nous avons tous besoin d'être sauvés individuellement, d'être sûrs de ce que nous sommes individuellement, mais nous avons des exigences par rapport au collectif qui parfois nous dépassent. En ce qui concerne les semences, le sujet est difficile. Et quand on nous renvoie, à nous scientifiques, que les paysans du Sud ressèment leurs propres semences, on oublie de préciser qu'ils sont face à des dérives génétiques qui fait qu'entre 5 et 10 ans, ils se créent un marché crypto, un marché artisanal de la semence parce qu'ils s'échangent des semences entre eux. Ce qui est devenu un marché puissant dans les pays développés est un marché artisanal dans les pays du tiers-monde. Ils ressèment leurs graines. Si vous ressemez les graines, l'agriculture est un construit social, comme les paysages d'ailleurs. L'argument de risque de contamination a été avancé. Il n'est pas démontré ou pas suffisamment. L'argument de risque alimentaire pour les populations autochtones est déployé depuis quelques années. C'est elles qui sèment leurs propres semences pour la récolte suivante, sans que quiconque n'observe que par définition, je viens de le dire, il y aura dégradation de la qualité intrinsèque du fait des dérives génétiques naturelles. Personne n'observe que c'est du marché des semences construit sur des millénaires que sont créées les pratiques agricoles grâce à la dissémination, grâce au croisement, grâce aux échanges et donc au risque pris. Qui ose quoi aujourd'hui ? Deuxième exemple, renoncement à l'huile de palme.
contact, sans réelle mesure de la dangerosité de cette huile. Un petit mérite, c'est que naturellement, c'est une des plus stables du monde à la friture et aux hautes températures. Mais, les travaux scientifiques, les recherches, ont transformé l'huile de palme naturelle pour avoir des acides gras trans, qui sont pour être plus stables à la cuisson, mais qui sont un tout petit peu plus compliqués à gérer en matière de nuisance. Enfin, en tout cas, d'incidence. Et ça, personne ne le dit. Était-on obligé de fabriquer des acides gras trans avec l'huile de palme? Ne pouvait-on pas en rester à l'huile de palme naturelle? On ne le dit pas. On a acide gras trans, on a tous entendu parler des acides gras trans, et on ne sait pas très bien ce que c'est, et ARO sur l'huile de palme. Or, l'huile de palme, c'est une des huiles les plus stables du monde, et c'est celle que nous avons, nous, pays coloniaux, nous avons installée en Indonésie, en Malaisie, un peu partout dans le monde, qui a une productivité exceptionnelle, qui a une stabilité exceptionnelle et qui est probablement une des moins nocives si elle n'est pas transformée avec des acides gras trans. Mais on ne le dit pas. Résultat, un argument de vente pour les entreprises agroalimentaires sans huile de palme sur un certain nombre de produits de niche. Et par ailleurs, l'huile de palme se déploie partout. Mais en attendant, on empêche, on inhibe, on obère peut-être l'avenir de pays que nous avons colonisés et qui ont été pauvres très, très, très longtemps à notre bénéfice. Quant au gaz de schiste, beaucoup a été dit ce matin. Je ne saurais dire mieux que monsieur tout à l'heure. L'intervention du Conseil constitutionnel dit que la fracturation hydraulique constitue un danger potentiel. Il ne dit pas vraiment ça, mais c'est ça que ça veut dire. Mais il n'interdit pas la géothermie parce qu'il n'y a pas de produits injectés. Le Conseil constitutionnel décide, dont acte. Vous avez remarqué que depuis quelques jours, d'autres ont rebondi pour dire « bon, mais alors, cherchons ». Voilà, allons chercher, essayons d'aller voir. Ça ne sera pas simple. Ça ne sera pas simple, parce que je partage ce que vous avez dit. Si on ne sait pas de combien nous avons à peu près de réserves, eh bien, on n'est pas en situation de négocier le prix du gaz, ni avec la Russie, ni avec l'Algérie. Et on ne peut pas non plus faire l'hypothèse que l'Algérie continuera indéfiniment à nous le vendre pas trop cher, parce qu'ils ont aussi un pays à développer, potentiellement un client, auquel on vend tout notre blé dur, quand même. Voilà, donc la vraie question est donc bien de savoir s'il y en a ou pas, et on ne sait pas, parce qu'on ne va pas voir. Et quand je dis « on », je dis « c'est ça qui m'ennuie plus », c'est que le monde scientifique ne va pas voir, et ne va plus voir. Et donc, je vous interpelle, je voudrais prendre l'exemple de Marie Curie, qui a pesé pendant des années, 4 je crois, la poussière, parce qu'il trouvait qu'il y avait un truc qui n'allait pas dans ses calculs. Il ne savait pas quoi. Elle n'avait pas posé de questions de recherche, comme on dit aujourd'hui, quand on dépose un projet de recherche pour avoir de l'argent à l'ANR ou à l'Union européenne. Il faut poser une question de recherche. Une question de recherche m'étonne toujours, moi. Mais on s'interdit d'aller voir, et j'interpelle à pas, non pas les scientifiques, parce que je ne crois pas que les scientifiques soient un monde homogène, mais j'interroge les institutions scientifiques. Comment se fait-il qu'en 20 ans, ni l'INRA, ni le CIRAD, ni le CNRS, ni l'INSERM n'aient lancé de programme puissant pour savoir si oui ou non les OGM étaient dangereux? On a toujours laissé des scientifiques tout seuls déposer des dossiers à Bruxelles pour avoir de l'argent pour le faire et les serres cassées, dont les miennes au CIRAD. Je l'ai vécu, donc j'étais directrice de département au CIRAD et nos serres ont été cassées. Nous avions une collection formidable de mutants d'insertion de riz. On avait 5 ans d'avance sur le décryptage du génome de la plus grande plante alimentaire du monde, le riz. Et on nous a tout cassé. Et on n'a pas pris de retard, on l'a récupéré. Parce qu'on est comme ça, nous les Français. Et donc voilà la question du politique par rapport aux scientifiques. Le politique, il vous dit, à vous, les scientifiques, et il dit aussi aux institutions. La question des moyens est certes une question, mais elle est aussi une question de se dire que le contact entre le monde scientifique et le monde politique ne peut pas se résoudre à se résoudre seulement à la question de l'argent ou à la question de l'organisation.
il dépend aussi de ce dont les scientifiques se saisissent comme sujet pour le décrypter, le dégrapper et en faire de la connaissance. Et j'aurais tendance à faire partie de ceux qui pensent qu'il n'y a pas de recherche fondamentale et de recherche appliquée. Il y a de la recherche et des applications de la recherche. Ce n'est pas du tout pareil. Et c'est dans cette confusion des sens dans lequel nous aussi, les politiques, nous entretenons. C'est tellement plus simple de dire on va faire de la recherche appliquée, donc on va résoudre les problèmes que vous avez ou que la société a, sans mesurer la complexité scientifique, technologique, thématique, la complexité de la science, la difficulté de passer de concepts formidables à des objets concrets. Et dans un laboratoire, pour l'avoir expérimenté moi-même, il y a de tout. Des gens qui, toute leur vie, seront plutôt théoriciens et des gens qui ont plutôt tendance à vouloir mettre la main à la pâte, comme on dit. Et qu'un bon labo, il fait tout. Et j'ai apprécié ce que disait M. Chou tout à l'heure, quand il soulignait que, en tout cas ce que j'ai cru comprendre, qu'il fallait faire entrer les scientifiques très très tôt dans les dispositifs scientifiques, dans les dispositifs industriels, dans les dispositifs politiques. Il faut qu'ils y entrent très très tôt, de manière à ce que d'emblée les contraintes de la découverte, les contraintes de la création, de la fabrication, puissent se déployer. Et aujourd'hui, nous avons un problème, nous avons un besoin en France qui est celle de reconstruire le concept d'expertise scientifique. Il faut sortir du one-shot individuel, tel ou tel est expert à tel ou tel endroit, à tel ou tel moment, à Paris ou à Bruxelles ou ailleurs, et commencer à reconstruire des communautés d'évaluation, à durée limitée, mais des communautés d'évaluation, des dispositifs qui soient cohérents et qui permettent d'interpeller le politique et l'administration. C'est essentiel, c'est nécessaire. Faire entrer des scientifiques très très tôt dans les processus est fondamental. J'avais appris à l'époque que pour Fukushima, il n'y avait aucun scientifique dans le staff de direction de Temco. Ils en avaient été sortis 10 ans avant. Il faut donc que les scientifiques acceptent la contrainte de la décision, la contrainte du monde du pouvoir, la contrainte du monde politique, parce qu'il faut qu'ils s'en saisissent et qu'ils aient la force collective, individu par individu, mais également institutionnelle, d'interpeller et de questionner non seulement le politique, mais également les médias. Voilà.